Vivre FM, podcast. 11h midi sur Vivre FM, la vie des entreprises. Annelies Farcoa.
Depuis la loi de 2005, les entreprises ont beaucoup progressé dans le domaine d'une meilleure intégration des personnes en situation de handicap. Et pourtant, le taux d'emploi est toujours aux alentours de 3,10%. Et le taux de chômage est de plus du double de celui des personnes valides. Alors, le dispositif actuel est-il adapté? L'objectif de 6% est-il trop ambitieux? Quels sont les freins rencontrés par les entreprises et est-il possible de les lever? Autant de sujets que nous aborderons ce matin dans un nouveau numéro de la vie des entreprises en compagnie de Jean-Charles Correa. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de Défi, une entreprise adaptée qui est également le premier centre de relations clients au monde dédié aux personnes sourdes et malentendantes. Donc merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous éclairer sur tous ces sujets. Merci à vous de nous écouter. Très belle journée à tous à l'écoute de Vivre FM.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant une petite heure et je reçois ce matin Jean-Charles Correa, le fondateur de l'entreprise adaptée Défi. Alors vous êtes avec nous ce matin Jean-Charles pour nous aider à dresser une espèce d'état des lieux de ce qui se passe actuellement en France dans le domaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais avant cela, et comme c'est la tradition dans cette émission, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours? D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise adaptée Défi?
Mon parcours,
et qu'est-ce que c'est que Défi?
Alors,
plein de questions, allez-y, je vais aller prendre un café.
Je vais essayer de vous répondre. Défi, c'est le premier centre de relations clients pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc l'idée, ça a été de créer à la fois un métier pour les personnes sourdes et malentendantes, puisque nos conseillers clients, on a un centre d'appel, hein, nos conseillers clients sont eux-mêmes sourds et malentendants et répondent aux appels qui leur arrivent par visioconférence, par webcam ou par chat. C'est une entreprise adaptée et l'idée qui m'a conduit à créer cette activité, moi je viens de l'informatique, hein, je travaillais chez SAP précédemment, donc un grand acteur de l'informatique mondiale, c'était de créer quelque chose qui aurait du sens, sachant que je connaissais des sourds et j'étais souvent amené à les aider à passer des coups de fil puisqu'ils ne pouvaient pas téléphoner, et je passais des coups de fil à des essentiellement les entreprises ou les organisations qui s'étaient organisées pour recevoir des appels. Donc, ils avaient des centres d'appels internes, par exemple, ou externes, peu importe. Mais en tout cas, ils étaient organisés pour recevoir les appels, mais ils n'étaient pas prêts à recevoir les appels des sourds. Donc, je me suis demandé si, effectivement, il n'y avait pas quelque chose à créer pour favoriser à la fois l'accessibilité de ces entreprises, ces administrations, et l'employabilité de ces personnes sourdes. Donc, en les formant, en pouvant faire des conseillers que je pouvais proposer à ces organisations de soit d'embaucher, soit de mettre à contribution par votre intermédiaire. Voilà comment le défi est né.
Donc, vous avez été sensibilisé au handicap quand vous étiez salarié. Pas du tout par votre famille, par vos amis, collègues de travail que vous avez rencontrés.
C'est vraiment rencontré. Par des liens d'amitié, c'était plutôt les amis, mais c'est vraiment par des liens d'amitié, des gens que je connaissais. Alors, c'est pas dans ma famille. Donc, effectivement, en ça, souvent, je fais un petit peu de tâche, parce que souvent, les gens qui entreprennent dans le cadre du handicap, souvent, sont touchés de près ou de loin, et c'est ça qui les sensibilise. Moi, c'était vraiment des rencontres plutôt amicales.
Oui, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Alors, donc, vous êtes rendu compte qu'il n'existait rien pour ces personnes-là?
Il n'y avait rien, effectivement, oui.
Donc, c'était il y a combien de temps, ça?
J'ai commencé à réfléchir au sujet en 2007-2008.
Oui.
Donc, j'ai créé l'entreprise fin 2009.
Donc, vous avez quitté votre autre entreprise?
Et j'ai démissionné, oui. Je m'occupais du développement à l'international, donc sur les pays d'Afrique, Moyen-Orient, etc. Donc, une vie, j'étais essentiellement en voyage pour revenir entreprendre en France. Alors, j'avais déjà entrepris avant, puisque... Avant, je montais des filiales pour mon employeur, mais ce n'était pas avec mon argent. Donc, j'étais intrapreneur, comme on dit. Et là, je suis devenu entrepreneur en cassant ma tirelire et en lançant ce projet.
Il y a un petit peu d'angoisse quand même. Monter une entreprise en France en 2000, donc c'était quoi, 2008, 2009?
2009, c'était la fin, oui. Ouais. Enfin, oui, on était dans une période encore un peu difficile. Oui, un peu d'angoisse. Et puis, dès lors qu'on entreprend, j'avais passé la quarantaine. Hein, donc, c'était une start-up, mais je n'étais pas un jeune start-upper. Donc, j'avais plus l'inconscience, l'insouciance des jeunes start-upers. Et puis, quand on prend ces économies, qu'on met tout dans la balance, effectivement, oui, il y a un peu d'angoisse. Mais en même temps, j'étais confiant sur le projet, la validité du projet et ce qu'on pouvait en tirer.
Mais quand on dit autour de soi, alors que ce soit effectivement à la famille, aux amis ou même aux banquiers, je vais créer une entreprise qui s'occupe de personnes en situation de handicap et je vais employer des personnes en situation de handicap, on ne vous dit pas « ouf, casse-gueule ».
Si, si, c'était la première réponse qui m'a été donnée. Alors après, les gens qui me connaissent me faisaient confiance, mais les gens qui me connaissaient moins, moi, pour provoquer, je disais que je voulais créer un centre d'appel pour les sourds. Donc là, tout de suite, ça interpellait un peu. Effectivement, les gens se demandaient ce qui m'était passé par la tête. C'est aussi pour ça que je ne suis pas allé voir de banque et que j'ai démarré sur mes fonds propres, parce que ça me paraissait plus simple que de passer des mois à essayer de convaincre tout l'écosystème financier de la validité du projet. J'ai préféré le lancer et puis montrer sur pièce que ça fonctionnait.
Et vous avez tout de suite voulu créer une entreprise adaptée?
Non, pas tout de suite. En fait, en réalité, je connaissais pas bien l'écosystème, encore une fois. Donc, j'ai voulu créer une entreprise. Et puis, très vite, les différents intervenants que j'ai rencontrés, le réseau Entreprendre, etc., m'ont sensibilisé au fait que l'entreprise que je voulais créer aurait sûrement rapidement à devenir une entreprise adaptée. Mais c'était pas mon objet au départ, même si mon objet, c'était d'employer des personnes en situation de handicap.
Mais pas forcément 80% comme c'est l'obligation dans une entreprise adaptée. C'est plus compliqué de créer une entreprise ordinaire ou de créer une entreprise adaptée. Il y a des différences.
Alors, moi, pour ma part, je pense que la création doit se faire dans le cadre de la création d'une entreprise. Je ne pense pas qu'il faille vouloir créer une entreprise adaptée. Je pense qu'il faut créer une entreprise.
Et puis la transformer après.
Absolument. Avec tous les basiques essentiels de l'entreprise qui sont la quête de rentabilité. Si on veut être pérenne, si on veut payer ses collaborateurs, si on veut les payer correctement, travailler dans les bonnes conditions, il faut qu'on ait un modèle économique qui soit viable. Donc je pense que c'est la première quête. Ensuite, effectivement, l'avantage commercial que va procurer le statut d'entreprise adaptée quand on va prospecter, il n'est pas négligeable. Donc c'est quelque chose qui nous aide à nous développer, évidemment, bien sûr. Ouais.
Alors aujourd'hui, combien de personnes travaillent au sein de Défi?
Aujourd'hui, on est 35 collaborateurs au sein de Défi.
Donc 80% de personnes situées en handicap, donc on le sait.
Absolument.
Tous sourds ou malentendants? Alors, ou est-ce que vous accueillez toutes sortes de handicaps?
Aujourd'hui, mais c'est pas exclusif, mais aujourd'hui, tous les travailleurs handicapés que nous accueillons sont soit sourds, soit malentendants. Mais on n'a pas d'exclusif. Simplement, on a une contrainte qui est que nous, on travaille essentiellement en langue des signes. Donc, on est bien sûr ouvert à tous les handicaps, modulo le fait que la personne qui voudrait travailler chez nous sur un poste de production, donc de conseiller client, maîtrise la langue des signes. Ce serait la seule condition pour entrer chez nous, en réalité.
Oui, parce qu'effectivement, on sait que chez les sourds, il y a des formes de langage un petit peu différentes. Il y a les personnes aussi qui lisent sur les lèvres. Oui. Donc vous, c'est plutôt la langue des signes.
C'est plutôt la langue des signes. La lecture labiale se pratique ainsi. Les personnes qui pratiquent la langue des signes pratiquent aussi la lecture labiale. Mais ça a tendance à se faire quand on est vraiment en contact d'un interlocuteur. À distance, c'est un peu compliqué puisque pour la lecture labiale, il faut aussi entendre une partie des sons. Donc on va compléter ce qu'on entend de façon parcellaire par ce qu'on voit sur les lèvres. La lecture labiale véritable qui consisterait à lire derrière une vitre sans entendre aucun son, ça ne peut pas se faire sur une conversation très complexe. Ça peut se faire sur des petits mots, des noms, etc. Mais on ne peut pas comprendre tout un discours uniquement la lecture labiale. Il faut entendre un petit peu.
Donc vous avez pris des cours, j'imagine? Vous
un
la
petit
maîtrisez
peu. Oui, non, je ne maîtrise pas tout à fait encore, pas encore assez.
Comment ça se passe pendant les réunions d'équipe alors?
Pendant les réunions d'équipe, effectivement, on a des interprètes en interne, donc comme on le fait dans une entreprise classique. Donc c'est aussi une bonne pratique. Et on a mis en place effectivement les ressources qui font que l'ensemble des choses sont accessibles. Après, la plupart des managers, eux, sont complètement bilingues, voire interprètes. Donc voilà, moi, c'est pas encore mon cas. Il faut que j'y mette un peu plus.
Alors, comment vous travaillez avec les entreprises ordinaires? Comment vous vous faites connaître? Parce qu'on sait que ça reste quand même un petit peu compliqué pour les entreprises de se dire, tiens, on va faire appel à une prestation extérieure et surtout à une prestation d'une entreprise adaptée.
Alors nous, ils ne nous connaissent pas en priorité par notre statut d'entreprise adaptée, c'est ils nous connaissent par les prestations qu'on offre, qui sont des prestations de relations clients. C'est un secteur dans lequel les entreprises sont habituées à faire appel à des tiers. Aujourd'hui, là, il y a 75% de la relation client qui est externalisée, donc voilà, les entreprises sont habituées à le faire. Et je dirais que notre statut d'entreprise adaptée, une fois qu'on a pu les convaincre de l'intérêt de notre démarche et de ce qu'on propose, c'est un plus qui va les aider à prendre des décisions financières notamment, parce que ça va limiter un petit peu les coûts, pas les supprimer mais les limiter, mais ce n'est pas la première approche qu'on a. On n'approche pas encore, même si ça va sûrement se développer, en tant qu'entreprise adaptée. On approche les entreprises, nos prospects, en tant que prestataires.
Prestations bien faites, particulières, etc. Alors, donc,
prestations sur lesquelles on met l'accent énormément sur la qualité, justement. Et on veut sortir du... Enfin, sortir. On ne veut pas être dans l'idée, ou promouvoir l'idée que... Entreprise adaptée, ça serait des prestations au rabais. C'est pas, en général pas le cas et c'est pas notre cas du tout. C'est pour ça que l'année dernière, on a entamé une démarche qualité avec à la clé une certification AFNOR. Donc dans notre secteur d'activité, c'est la certification AFNOR NF345, donc qui récompense les...
C'est un peu
technique, mais tous les centres de contact, les centres de relations clients qui veulent montrer leur qualité passent cette certification. Donc, nous, on l'a passé également et on a été les premiers, parce qu'on aime bien être les premiers dans pas mal de choses, on a été les premiers à passer cette certification sans utiliser la voix, puisque nous, nos collaborateurs n'utilisent pas la voix, mais uniquement le chat ou la langue des signes. Mais néanmoins, on a rempli tous les critères et donc l'AFNOR nous a certifié en novembre 2015 centre de relations clients.
Alors, c'est important de dire effectivement que les entreprises adaptées ont fait énormément d'efforts depuis quelques années pour dépoussiérer un petit peu le système, pour dire qu'elles innovent, qu'elles ne sont pas effectivement des entreprises au rabais qui font des prestations un petit peu moins bien faites, plus longues, plus chères, que maintenant le travail est aussi bien fait que dans une entreprise ordinaire. Ça, c'est, vous vous battez aussi pour ça ou vous avez l'impression que le travail a été fait là depuis la loi de 2005?
Non, on se bat pour ça. On a un certain nombre de jeunes entreprises adaptées, je ne dis pas que les moins jeunes sont moins concernés, mais qui, un certain nombre d'entrepreneurs, notamment qui venons du secteur ordinaire. Et donc, on est amené avec nous les pratiques, et j'espère les bonnes pratiques, en laissant les plus mauvaises, les bonnes pratiques du secteur ordinaire, notamment en termes de démarche qualité, d'efficience, de qualité concurrentielle aussi. On a amené ça dans le secteur adapté. Donc, je peux citer des entreprises que certains connaissent, ATF Gaïa, Le Petit Plus, etc. C'est des entreprises fast road.
Qu'on connaît bien ici et qu'on reçoit régulièrement.
J'imagine. Ouais. Et le profil des entrepreneurs, effectivement, sont des gens qui ont eu une vie d'entrepreneur ou de dirigeant ou de cadre avant d'arriver dans le milieu, dans le secteur protégé. Et je pense qu'ils amènent cette exigence qu'on rencontre dans un certain nombre de grands groupes. Il n'y a pas que des qualités dans un groupe, mais il y a quand même certaines exigences qui sont plutôt salutaires. Et on essaye d'infuser ça dans le domaine du secteur protégé.
Et ce qui est important aussi, c'est de former régulièrement les personnes qui travaillent dans l'entreprise tout au long de leur vie. Parce qu'on le sait très bien, la formation est essentielle pour éviter les brisures de la vie, les cassures, les inaptitudes.
Absolument. Alors nous, la formation, c'est une des pierres angulaires de notre dispositif. Hein, puisque d'emblée, lorsqu'on a voulu créer notre métier avec des conseillers clients sourds qu'on appelait des vidéoconseillers, il n'existait pas de vidéoconseiller sur le marché. Ça n'existait pas parce qu'on a inventé le métier à proprement parler. Donc, on s'est rapproché d'un organisme de formation qui est l'AFPA. Et avec eux, on a adapté une formation qu'ils avaient à leur catalogue, qui était une formation de conseiller relations clients à distance, donc avec un titre d'état de CRCD, conseiller relations clients à distance, titre d'état niveau 4, hein, donc c'est un bac pro. Donc, on l'a adapté en langue des signes. Et dès le départ, on a décidé que nos conseillers passeraient par cette formation avant d'intégrer l'entreprise. Donc, la formation, c'était complètement un des fondements de notre métier et notre croyance aussi qui est que le handicap n'est pas un frein si tant est qu'on puisse former les personnes, il faut arriver à les former. Alors ça, c'était au départ et puis tout au cours de la carrière, évidemment, il faut continuer à le faire, mais c'est vraiment un des points importants de, je pense, notre succès et notre développement aussi.
Très bien, Jean-Charles Correa, vous restez surtout avec nous. On fait une courte pause en musique dans la suite de l'émission. On continue à parler de la façon dont les entreprises s'impliquent dans le domaine d'une meilleure intégration des personnes en situation de handicap. Donc, vous restez bien avec nous. À tout de suite.
La vie des entreprises. Jusqu'à midi sur Vivre FM. Alice Farcoa.
Dans quelques minutes, vous retrouverez votre chronique Les 3 minutes pour l'emploi. Mais pour l'instant, nous sommes dans la seconde partie de la vie des entreprises. Nous recevons ce matin Jean-Charles Correa, le fondateur de l'entreprise Adaptée Défi. Nous avons parlé de l'entreprise adaptée que vous avez créée il y a maintenant un peu moins de 10 ans, quelque chose comme ça.
6 ans, ouais.
6 ans, voilà. Je la vieillis déjà. Si nous élargissons le sujet, est-ce qu'on peut dresser un petit état des lieux de l'employabilité des personnes sourdes et malentendantes en France? On sait que les personnes handicapées sont touchées deux fois plus que les valides sur le chômage. Est-ce qu'on a un chiffre précis en ce qui concerne ce handicap en particulier?
Alors, je pense
est-ce que
pas
c'est que... plutôt plus élevé, moins élevé, pareil?
Je ne pense pas qu'il existe des chiffres précis et officiels. Moi, j'avais eu connaissance d'une étude d'un sociologue qui s'appelle Sylvain Kerbouche, qui travaille pour le Centre d'études de l'emploi, qui avait fait une étude assez intéressante il y a quelques années. Le taux d'emploi, selon lui, des travailleurs sourds mais entendants était légèrement inférieur à celui des autres handicaps. Une des principales raisons qu'il mettait en avant, c'était le fait que pour beaucoup de personnes sourdes, notamment, l'accès au français écrit est un peu compliqué. Donc, ça rajoute une couche à la difficulté de communication avec le handicap sensoriel. Donc, ce qui a compliqué encore, effectivement, l'intégration dans l'entreprise, dans le monde du travail et notamment l'apprentissage de nouvelles tâches.
Alors, depuis la loi de 2005, c'est surtout depuis ce moment-là que les choses ont un petit peu évolué, puisque le regard quand même des managers, des recruteurs a évolué plutôt dans le bon sens, on espère. Il reste malgré tout beaucoup de choses à faire et c'est sur ça que vous souhaitez vous mobiliser, vous, Jean-Charles Correa. Les entreprises de plus de 20 salariés, on le sait, sont soumises à l'obligation d'emploi de 6% de personnes handicapées. Le taux d'emploi actuel, on n'a pas encore vraiment les chiffres de 2015, est d'environ 3,11%. Vous êtes à peu près d'accord avec ces chiffres?
J'ai connaissance de ces chiffres, donc d'accord, je ne vais pas être d'accord.
Mais... Non, mais voilà, vous avez connu, on a les mêmes chiffres. Voilà. Ça veut dire que l'objectif des 6% était trop ambitieux?
Non, je ne crois pas que l'objectif soit trop ambitieux. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. C'est que d'une part, effectivement, ça correspond, j'imagine, dans l'esprit du législateur, à la population employable de personnes en situation de handicap. Donc, c'est normal de mettre un objectif. Après, il y a un écueil quand même pour les entreprises. C'est le fait que beaucoup de personnes ne se déclarent pas et qu'en réalité, je pense que le taux de 3,11 que vous évoquez, il est en deçà de la réalité. Il y a un certain nombre de personnes qui, pour plein de raisons qui leur appartiennent, ne souhaitent pas se déclarer, ne se déclarent pas, et que le taux réel est un peu plus important que ça, ce qui pénalise, il est vrai, les entreprises quand même.
Ça veut dire que les managers, les recruteurs, les dirigeants d'entreprise ne sont pas encore capables de rassurer suffisamment les collaborateurs qui pourraient se déclarer.
Moi, clairement, dans mon esprit, c'est clairement le cas. Moi, quand je travaillais dans une entreprise ordinaire, en tant que salarié, j'avais une collègue qui aurait pu obtenir une RQTH, qui était commerciale et qui ne souhaitait pas faire la démarche parce qu'elle ne voulait pas faire son espèce d'outing qui aurait consisté à se dire, voilà, je suis une femme et en plus, j'ai aux yeux de, possiblement, de mon management, une faiblesse supplémentaire. Donc voilà, elle vivait son handicap sans le déclarer et sans, en quelque sorte, en faire bénéficier, si je peux m'exprimer ainsi, son entreprise, puisqu'elle a été régulièrement employée et puis elle a continué à progresser. Elle pensait que ça serait un frein pour sa carrière.
Voilà, et en plus, effectivement, on sait très bien, les collaborateurs savent très bien ce que ça peut apporter à l'entreprise, mais se disent, et moi, ça m'apporte quoi?
Exactement.
À part le fait que ça risque de me mettre de côté, que ça risque de m'écarter d'une possibilité d'évolution dans ma carrière, ça m'apporte quoi?
Exactement, je pense que une des failles ou une des faiblesses, un des points d'amélioration, je vais le dire comme ça pour être positif, de la loi de février 2005, c'est aussi d'apporter pour le salarié concerné un plus au fait de se déclarer. Aujourd'hui, effectivement, l'avantage, il est essentiellement pour l'entreprise. Il n'y a pas de protection particulière, il n'y a pas de choses particulières pour le salarié, donc il n'a pas forcément intérêt à se déclarer. Alors, certaines entreprises, nous, on en connaît, mettent en place des choses spécifiques pour les travailleurs handicapés reconnus. Des heures en moins, des avantages sur le transport, etc., pour inciter les gens à le faire, mais ça peut être que incitatif. Et il y a des gens que ça n'intéresse pas.
Alors concrètement, cela peut être vraiment très utile et même indispensable pour les personnes qui ont des handicaps moteurs ou des handicaps sensoriels, qui peuvent se faire appareiller, qui peuvent avoir un aménagement de poste. Mais pour les personnes qui ont un handicap invisible, effectivement, vous parliez de personnes qui ont besoin d'un aménagement d'horaire, qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies invalidantes. Oh, bah, qu'est-ce que ça rapporte? Les personnes qui souffrent d'un diabète et qui sont obligées de passer un quart d'heure à heure fixe tous les jours pour se faire leur piqûre, ça ne leur apporte rien de se faire reconnaître.
Ça leur apporte en général rien. En tout cas, ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle elle travaille, mais la loi ne prévoit pas d'aménagement particulier, sauf erreur de ma part. Donc ça leur apporte rien, si ce n'est que de se dévoiler et de faire apparaître ce qui pourrait, bien sûr à tort, sembler se rapprocher d'une faiblesse pour leur management, notamment pour des gens qui veulent accéder à des postes de management. On va se demander s'ils sont capables d'assumer les horaires, la pression, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup qui ne le font pas.
Alors, on le sait, 80% des handicaps sont invisibles et aussi 80% des handicaps se déclarent au cours de la vie. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont 30, 40, 50 ans qui ont accès à des postes élevés et qui ne se déclarent pas non plus. On a l'impression qu'on le dit beaucoup, les personnes qui sont en situation de handicap ont plutôt des niveaux d'études peu élevés, mais est-ce que ça veut dire que les cadres supérieurs redoutent encore plus que les salariés qui ont un petit niveau d'études de se faire reconnaître?
Oui, bien sûr, je pense que notamment dans un domaine qu'on connaît bien, qui est le domaine de l'audition, où la déperdition, la perte d'audition, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. C'est sûr que pour un cadre qui a fait une carrière classique, admettre, reconnaître qu'il commence à avoir une audition déficiente et qu'il va devoir être appareillé et peut-être reconnu travailleur handicapé, c'est un peu compliqué. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, dans ce domaine-là comme dans d'autres, hein, évidemment, qui hésitent à faire le pas, d'abord de la propre reconnaissance, enfin, eux-mêmes, de reconnaître qu'effectivement, ils ont un handicap qui survient. Je ne parle pas d'accident de la vie, mais je parle de survenue lente d'une déficience. Et il faut déjà l'accepter et ensuite accepter de le partager avec d'autres. Je pense que c'est compliqué et je pense que plus on monte dans la hiérarchie, plus on est haut, plus c'est compliqué. Sauf à être au top sommet où ça peut devenir effectivement quelque chose qui nous singularise et où on va s'en servir comme un étendard pour montrer que le handicap n'est pas un frein réellement.
Notre coach vient arriver dans le studio, donc on lui laisse la parole. Une question et une réponse concernant l'emploi. On répond aux questions des auditeurs de Vivre FM. À tout de suite. Valérie nous a envoyé un mail. Elle est malvoyante et en recherche d'emploi. Elle a indiqué sur son CV qu'elle était bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle nous demande si les nécessités d'adaptation de son poste doivent apparaître sur son CV ou sa lettre de motivation ou être discutées plus tard lors de l'entretien par exemple. Frédéric Lotto, vous êtes le producteur de Handy Today. Quel conseil pouvez-vous donner à Valérie ?
C'est toujours très délicat de conseiller quelqu'un dans cette situation-là sans connaître exactement quel est l'impact de son handicap sur le type de travail qu'elle va pouvoir faire ou le type d'aménagement qu'elle va demander. Il est évident que dans le cadre d'un aménagement très lourd, il vaut mieux en parler le plus vite possible pour que le recruteur en face sache exactement à quoi s'en tenir et si l'entreprise a la capacité financière, humaine et technique d'accueillir cette personne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il ne faut pas se mettre le couteau sous la gorge non plus et puis aller au-devant des choses trop brutalement et tout de suite, en quelque sorte, avouer à quelqu'un qu'on a une incapacité. Non.
Ça peut faire peur.
Ça peut faire peur et puis c'est inutile. Et en même temps, il y a une nécessité d'être transparent. Moi, j'invite toujours et les recruteurs et les candidats à la plus grande transparence et la transparence la plus rapide possible, sans pour autant aller dans les détails. Donc, pour répondre précisément à cette question, à cette auditrice, mettre ça dans son CV, c'est pas la peine. Elle met simplement qu'elle a une RQTH et ça, c'est important. Ensuite, dans la lettre de motivation, dans le cas d'un événement lourd, enfin, ou d'un impact lourd sur le travail, ça vaut peut-être le coup de le glisser dans la lettre de motivation. Si jamais c'est pas trop impactant, elle attend l'entretien et à un moment, le recruteur lui dira et lui demandera s'il y a besoin d'un aménagement du poste de travail. C'est là qu'elle répondra. Donc, peut-être le faire en plusieurs temps.
Cela dit, on peut très bien comprendre que ce soit confortable pour un recruteur de savoir quelle est la nature du handicap. Parce que quand on voit RQTH sur un CV, on ne peut pas savoir du tout si effectivement la personne est non-voyante ou en fauteuil ou est porteur d'un handicap psychique.
Alors quelqu'un, un recruteur qui parle à une personne qui a envoyé son CV avec marqué RQTH, il doit savoir à quoi s'en tenir. Ça veut dire qu'il doit être capable de faire face à tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, les entreprises sont dotées, encore une fois, de personnes formés pour ça, de moyens financiers, de moyens techniques aussi existants, puis d'une expérience, parce que la loi de 2005 elle a été quand même mise en application depuis quelques années par pas mal d'entreprises, et aujourd'hui un recruteur est prêt, de manière générale, à être surpris, le cas échéant, ou pas surpris, parce qu'encore une fois, il y a des handicaps qui ne se voient pas, et puis il y a des handicaps aussi qui n'impactent pas les gens dans le cadre de leur travail. Ils vont peut-être les impacter par ailleurs pour faire du sport ou des choses comme ça, mais pas forcément dans le cadre de leur travail. Donc RQTH ne doit pas faire peur et il faut de toute manière indiquer qu'on a besoin d'un aménagement de poste de travail, mais on n'est pas obligé non plus de rentrer dans les détails et dire voilà, il me manque ci, j'ai pas ça et voilà. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça à un recruteur, il le verra quand il vous verra et c'est à ce moment-là que vous discuterez posément de l'aménagement de nécessité.
RQTH ne doit pas faire peur, Jean-Charles Correa, vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire que, à votre avis, maintenant, les recruteurs, si on parle vraiment des grosses entreprises, les recruteurs sont tous informés de ce que ça veut dire RQTH ?
Ah oui, je pense qu'effectivement, les recruteurs maintenant sont au courant de ce qu'est une RQTH. Je pense qu'ils sont même plutôt avides de rencontrer des candidats de valeur qui sont titulaires d'une
RQTH. Vous allez jusque-là ?
Oui, je crois que dans les entreprises ordinaires, effectivement, c'est plutôt un plus. Alors, pour rebondir sur ce qui était dit dans la chronique, moi, je pense pas, enfin, mon avis serait que, ce n'est que mon avis, hein, mais serait qu'il faut pas mettre en avant spécialement les aménagements de poste nécessaires. Je pense qu'il faut provoquer le rendez-vous et justement dédramatiser par rapport à un recruteur qui n'est pas forcément un spécialiste du handicap, dédramatiser les choses. Peut-être qu'il aura une prévention à rencontrer un candidat s'il a l'impression que c'est complexe de l'employer ensuite. Alors que lorsqu'il le rencontrera, il y a de fortes chances qu'il s'aperçoive qu'en fait, il a en face de lui quelqu'un de tout à fait employable et qui pourrait faire partie rapidement de ses effectifs. Et l'aspect aménagement de poste lui paraîtra cette fois-ci un peu plus accessoire que s'il l'avait vu théoriquement sur un CV ou une lettre de motivation.
On fait une courte pause musicale, on se retrouve juste après, toujours pour faire un petit état des lieux de ce qui se passe actuellement dans les entreprises, dans le domaine de l'emploi des personnes en situation de handicap, avec Jean-Charles Correa, tout de suite.
Jusqu'à midi sur Vivre FM, la vie des entreprises, Alice Farcoa.
Vous êtes bien sur Vivre FM dans la vie des entreprises, toujours en compagnie de Jean-Charles Correa, le fondateur de l'entreprise Adapté Défi. Alors, on fait un petit point ce matin sur la façon dont les entreprises s'impliquent dans le domaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a encore des freins qui persistent dans les entreprises. On a l'impression que depuis la loi de 2005, les entreprises ont fait beaucoup d'efforts sur le domaine de la sensibilisation des équipes, que maintenant on en parle beaucoup, qu'il y a un regard qui a changé, que les managers sont moins craintifs peut-être, moins peur, et que les collaborateurs savent qu'ils peuvent accueillir un jour ou l'autre une personne en situation de handicap. Mais il y a quand même des freins qui restent. Comment faire pour faire tomber tous ces freins ?
Pour faire tomber sous ces freins, je pense qu'il faut provoquer les échanges, les rencontres, les partages pour montrer qu'effectivement, le handicap, c'est pas si important que ça au quotidien. Sans en limiter l'impact pour les gens qui sont touchés. Mais dans le cadre du travail, on s'aperçoit que très souvent, c'est des situations qui peuvent se gérer plutôt facilement. Par exemple, nous, chez Défi, un certain nombre de nos clients nous demandent d'implanter nos collaborateurs sur leur propre site de production. Donc on a un plateau, nous, à Montreuil, et puis un autre plateau à Lille, un plateau d'appel, hein, donc comme tous les centres d'appel, mais on a certains clients qui nous ont demandé de mettre nos équipes chez eux. Et c'était uniquement dans le but de faire partager à leurs collaborateurs valides l'expérience de travailler aux côtés de travailleurs en situation de handicap qui faisaient le même métier qu'eux, et en l'occurrence dans une langue différente, puisque nous, ils travaillent essentiellement en langue des signes.
C'est vachement intéressant. Vous savez comment ça se passe, du coup? C'est très enrichissant pour tout le monde.
C'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. On s'aperçoit que les collaborateurs entendants de nos clients, de leur d'ordre, et très souvent, ils n'utilisaient pas leur droit à la formation, leur DIF, et bien, depuis quelques années, ils mobilisent pour apprendre la langue des signes. Donc, ils font des demandes, ils apprennent la langue des signes, ils apprennent du revirement, et puis comme ça, ils peuvent aller communiquer avec leurs collègues de plateau, même si on est un prestataire, on est intégré hein, sur les plateaux, avec leurs collègues de plateau qui sont sourds. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que j'ai un client comme SFR, par exemple, avec qui on travaille depuis bientôt 6 ans maintenant. On a des gens qui sont vraiment des experts, qui sont là depuis pratiquement le début. On a une expertise que des jeunes collaborateurs de SFR n'ont pas encore. Et donc, on peut même devenir référent. Donc, on inverse la relation entre personnes en situation de handicap et personnes valides. Que les experts, ça devient nous, et c'est vers nous qu'ils vont se tourner parfois pour demander, poser une question un peu pointue sur un produit, un service, une box, etc. Comment ça se fait, comment ça fonctionne. Nous, on sait, parfois, ils ne savent pas encore, donc c'est vraiment intéressant.
Alors, on n'a pas parlé du profil des personnes qui travaillent chez vous. Est-ce que ce sont systématiquement des personnes qui sont sourdes de naissance, ou est-ce que ce sont des personnes qui ont pu perdre l'audition à la suite d'un accident, par exemple, ou d'une maladie?
Alors, on n'a pas de profil type. Hein. Le seul profil qu'on a, c'est la maîtrise de la langue des signes.
D'accord.
Donc, c'est un profil de compétence plutôt que de handicap. Donc, on a des gens qui sont sourds de naissance, on a des gens qui sont malentendants, avec des plus ou moins graves. Mais l'important, c'est qu'ils maîtrisent la langue des signes pour pouvoir communiquer à distance en langue des signes avec nos clients. Et bien sûr, qu'ils maîtrisent le français pour pouvoir communiquer à l'écrit et en chat.
Absolument. Justement, on parlait de maintien dans l'emploi. Alors, parce que, donc, on disait la sensibilisation des équipes, bon, c'est à peu près fait, à peu près. Hein, vous
ça avance.
Vous dites que, voilà, ça avance. C'est pas. Voilà, on ne se dit pas, ça y est, c'est fait, c'est gagné,
c'est jamais chouette.
Voilà. Y a toujours des choses à faire. Concernant le maintien dans l'emploi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, puisqu'on va travailler de plus en plus tard, on le sait. On va tous. On risque tous d'avoir une maladie, un accident. On a tous. Ce risque-là, il faut vraiment que les entreprises s'imprègnent de cette difficulté-là et se disent qu'il faut éviter à tout prix l'inaptitude et puissent garder les salariés autant que possible dans leur entreprise, comme on peut faire.
Alors, effectivement, ça c'est une réalité, hein, le fait qu'on va travailler de plus en plus tard et que donc on assistera de plus en plus à l'apparition de handicap et de facteurs d'efficience réduite, d'inaptitude sur des postes. La difficulté vient un petit peu de la taille de l'entreprise. Lorsqu'on est 22, donc on est déjà soumis à l'obligation, mais on n'est pas encore une grande entreprise, c'est un peu plus compliqué de gérer ça que quand on est une grande banque. On a plein de postes qui vont pouvoir être proposés à une personne qui, suite à effectivement, l'apparition d'un handicap plus ou moins brutal, serait plus en capacité de rester sur son poste actuel. Donc là, je dirais qu'il faut, considérer la taille d'entreprise notamment et les secteurs aussi, puisqu'il y a des secteurs où c'est plus compliqué. Dans les services, c'est peut-être plus simple que dans l'industrie, où les postures, la façon de travailler sont un peu plus compliquées en fonction de certains handicaps. La dangerosité aussi, on parlait de handicap psychique, si on travaille sur des machines-outils, c'est un peu compliqué aussi. Parfois, peut-être, ça peut être dangereux pour la personne. Donc, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de vision d'ensemble, c'est vraiment du cas par cas, mais moi, ce que je pense, que j'observe en tout cas, c'est que les entreprises prennent ce projet à bras le cœur et on le voit parce que typiquement, les gens qui sont dans les missions handicap, de plus en plus, sont des gens qui ont voulu y aller. Ce n'était pas forcément le cas, quand on a commencé avec des filles en 2009. On voyait des gens qui étaient
c'était
pas
des postes qui étaient un petit peu mal aimés.
Bon, c'était pas le bâton de maréchal, la mission handicap. Hein. C'était un poste où parfois on échouait sur ce poste-là. Échouer au double sens peut-être. Mais aujourd'hui, c'est moins en moins le cas. On a des gens qui ont à cœur d'être sur ces postes-là pour faire avancer les choses. Et c'est très symptomatique du changement d'état d'esprit des entreprises.
Et ce qui est important aussi, comme vous le disiez au début d'émission, c'est que ce ne soit pas forcément des personnes qui soient elles-mêmes en situation de handicap ou qui aient été elles-mêmes touchées par une personne de leur entourage. C'est bien que ce soit aussi des gens qui viennent d'un milieu ordinaire et qui se disent, moi j'ai envie de faire avancer les choses.
Complètement, moi je crois pas qu'il soit nécessaire d'être touché dans sa chair pour comprendre et pour faire preuve d'empathie. C'est même peut-être parfois, alors sans faire de la discrimination à l'envers, hein, mais peut-être parfois aussi une preuve de justesse de jugement, le fait d'avoir une certaine distance, ça n'empêche pas du tout de se consacrer, moi je pense en être un exemple parmi d'autres, hein, mais ça n'empêche pas de se consacrer très sincèrement et avec densité à cette mission, donc c'est pas une obligation. C'est vrai qu'historiquement, c'était un petit peu la facilité, on avait une personne en situation de handicap, on le mettait à la mission handicap. Non, il peut être très bien un marketeur, responsable de la relation client, responsable de la comptabilité, des finances. Il n'y a pas de raison qu'il échoue nécessairement au handicap.
Alors, si on prend une partie des handicaps, hein, parce que vous êtes vraiment spécifiquement sur les handicaps sensoriels.
Sensoriels, oui.
Voilà. Les handicaps psychiques, ça reste compliqué. Ça continue à être un petit peu anxiogène pour les entreprises. Vous avez l'impression que ça évolue quand même?
Moi, j'ai le sentiment que c'est l'handicap qui est le plus difficile à gérer pour les recruteurs et pour les employeurs dans la durée. Non pas parce qu'il est vraiment difficile, mais parce qu'il fait peur. Donc, on a toujours l'impression qu'effectivement, dès qu'on dit handicap psychique, on pense difficultés importantes de gestion des personnes au quotidien.
Parce qu'imprévisible,
mmh. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément des choses qu'on sait comprendre. Donc, on n'a pas envie de les comprendre. Donc moi, il m'apparaît que c'est probablement le handicap qui est le plus compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes qui sont touchées par ce handicap sont plutôt en ESAT qu'en entreprise adaptée, un milieu plus fermé, plus socio-médical. Mais ce n'est pas forcément justifié, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, il y a aussi la difficulté des personnes qui sont en situation de maladie invalidante. Aussi avec l'évolution, avec l'augmentation du temps de travail, on va tous pouvoir être touchés par un cancer, par une sclérose en plaques, par des maladies comme ça. Le retour à l'emploi, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois le retour à l'emploi d'une personne qui a été absente pendant un certain temps. Il y a à la fois aussi les difficultés pour un manager, pour une équipe, de faire face à une personne qui doit s'absenter irrégulièrement et de façon complètement imprévue de temps en temps. C'est pas facile, ça. Et en même temps, on le sait, c'est très important pour ces personnes-là de garder un contact avec l'entreprise.
Absolument, c'est primordial, notamment au retour, lorsqu'on a été absent pendant longtemps. Mais c'est vrai aussi pour les gens qui ont des périodes d'absence ponctuelles. Après, on revient à la même problématique. L'impact sur l'entreprise et même par rapport aux collègues, le facteur taille est extrêmement important. On a une équipe de 20, lorsqu'il y a une personne qui est sur un poste important qui
ça
manque
bouleverse beaucoup plus,
6 mois, ça affecte tous ses collaborateurs, tous ses collègues. Mais peut-être que le retour est un peu plus compliqué pour la personne. Et je ne parle pas du management uniquement, mais je parle aussi des collègues, des gens qui travaillent avec vous, qui ont fait votre travail pendant que vous n'étiez pas là. Il y a un vrai danger qui existe moins dans une grande structure à la poste quand il manque deux personnes. Je ne pense pas que ça bouleverse globalement l'ordre des choses et le fonctionnement d'entreprise. Donc ça, ce n'est pas tout à fait égalitaire entre les employeurs. Et c'est vrai que dans certains contextes, c'est un peu plus compliqué. Après, moi, je pense qu'effectivement, il est vraiment important de savoir faire la place aux gens qui partent et qui reviennent. Eux aussi doivent se sentir capables de reprendre leur place pleinement. Je pense que c'est des deux côtés que c'est compliqué. Hein. Ce n'est pas uniquement du côté employeur-entreprise. La personne qui revient d'une longue maladie, par exemple, a peut-être le sentiment qu'elle est plus légitime. Donc, c'est à elle aussi de trouver les ressources en elle pour retrouver sa légitimité ou montrer, en tout cas, qu'elle pas donner à penser qu'elle l'a perdue.
Un dernier conseil, Jean-Charles Correa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire bouger les lignes?
Pour faire bouger les lignes, moi, j'ai un dada, de façon générale, hein, sur le, alors, je ne parle pas spécialement des gens qui partent, comme on vient de le faire à l'instant, pendant une période, mais pour moi, pour faire bouger les lignes, pour faire avancer l'emploi de travailleurs handicapés, pour moi, la clé, c'est la formation.
Ouais.
C'est effectivement le fait de mettre en place des formations. On parle beaucoup de l'apprentissage qui recommence à avoir la cote en France. Mettre en place des formations, notamment en alternance, qui vont permettre effectivement de constituer un SAS pour les personnes en situation de handicap, les travailleurs handicapés vers l'entreprise. Ça a deux vertus. D'une part, réconcilier les gens qui sont loin de l'emploi avec leurs compétences, le fait qu'ils peuvent acquérir des compétences et être légitimes et crédibles dans leur métier. Et ça peut permettre aux entreprises, aux employeurs, de se faire, de faire connaissance avec ses futurs collaborateurs, qui peuvent être, dans un premier temps, des stagiaires pendant un an en alternance, et de s'apprivoiser mutuellement pour mieux se connaître. Et je pense que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Ça a fonctionné pour nous avec des collaborateurs sourds. Et moi, je suis en train d'essayer de relancer dans le secteur de la relation client. En direction de tous les handicaps. C'est une filière qui est en manque qui recherche des travailleurs en situation de handicap aussi. Donc on va essayer de faire ça.
Donc vous recrutez?
Alors c'est pas nous qui allons recruter. Moi, ce que je vais faire, c'est mettre en avant une initiative que j'appelle InsertC, en fédérant des recruteurs et en leur proposant d'activer un certain nombre de dispositifs qui existent déjà avec la GFIP, avec le Pôle emploi, avec les opérateurs de formation pour former des travailleurs handicapés qui vont ensuite accueillir eux directement en alternance, avec pour objectif de les conserver à la fin de l'alternance et l'obtention de leur diplôme.
On peut aller sur votre site et on va découvrir tout ça.
On peut aller sur un site, non, pas sur Défi, mais je suis en train de lancer un site qui s'appelle insertc.org, donc il y a déjà une page qui est en ligne.
On mettra tout sur notre site. Merci beaucoup Jean-Charles Correa d'être venu nous voir ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Lim d'avoir réalisé cette émission. Dans quelques minutes, les infos, puis la suite de vos programmes. À très vite pour un nouveau numéro de la vie des entreprises.
Vivre FM, podcast.